Bonjour à tous, ici Sullivan Le Postec, je suis toujours avec Karine Wittmann.
Et bonjour.
Et pour la première fois, nous sommes avec Émilie Flamand.
Bonjour.
Et nous enregistrons ceci le jeudi soir, c'est ça?
Oui. Ouais,
c'est ça. Et on va vous parler de la journée de mercredi, de la journée d'aujourd'hui. Vous voyez que quelques jours de festival ont passé et je commence à ne plus savoir où j'habite. Donc tout va bien, tout est normal. Alors, c'est ça, j'habite dans une salle de projection. Alors, donc, pour commencer, on va parler un petit peu des projections d'hier. Tu as vu une série allemande, le premier épisode en tout cas, qui s'appelle Weissensee, Karine?
Oui, alors c'est une série qui se passe dans la RDA dans les années 80. Et en fait, c'est l'histoire d'une fille qui rêve de partir à l'Ouest et qui a un petit copain qui a la double nationalité américaine et allemande et qui donc peut passer la frontière sans problème. Et lors d'une virée en bagnole, elle rencontre un policier qui tombe dès le premier regard amoureux d'elle. Et en fait, on apprend très vite que leurs parents se connaissent. Et donc, ce qui peut paraître comme une histoire interdite va devenir très sordide. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on voit le générique qui est lancé, parce que ça commence avec un générique en musique, j'ai eu l'impression de voir la clinique de la Forêt Noire. Et donc, pour moi, le ton était déjà donné. Alors, j'étais peut-être un peu fatiguée. J'ai failli pointe du nez pendant le premier épisode. Je vais pas dire que c'est bon, ça se laisse regarder, c'est bien joué, voilà quoi, c'était sans plus.
Ok. Alors la première projection c'était hier, je l'ai vu aujourd'hui en fait, un unitaire de Canal Plus qui s'appelle L'Infiltré, et qui va passer en fait bientôt sur la chaîne au mois de février. Donc c'est toujours un peu dans la vague et la tradition Canal Plus des unitaires politiques. Ça se passe dans les années 80, il commence à y avoir des attentats en France liés au conflit palestinien en fait. Du coup la France essaye de contrôler ça, en fait il y a un espèce de chef de guerre palestinien qui s'oppose à la ligne d'Arafat, qui est en train de commencer à vouloir essayer de rentrer dans une certaine pacification des rapports avec Israël pour obtenir la paix. Et donc l'opposant d'Arafat est opposé complètement à ça. Au contraire, il veut la lutte armée et en gros il veut tuer du juif. Et donc en fait la France a des agents, un agent qui est joué par Jacques Gamblin qui est dans un rapport avec ce type-là en essayant de garder des relations et pour mieux essayer de continuer à obtenir des informations pour le contrer, et parce que la France est à la manœuvre pour que Arafat gagne en importance politique et qu'il devienne le leader incontesté du côté des Palestiniens. Et en fait, il propose au chef de guerre de venir former trois jeunes dans des universités françaises, avec pour objectif d'essayer d'en retourner un pour qu'il devienne un infiltré à l'intérieur de son service. Et donc il va réussir à le faire, et on va suivre ensuite la manière dont cet infiltré va pouvoir les renseigner pour permettre de lutter contre ce type et de continuer à essayer de favoriser les leaders palestiniens qui sont plus favorables à un processus de paix avec Israël. C'était assez intéressant, c'est bien joué, à la fois Jacques Gamblin et l'acteur qui joue l'infiltré, dont malheureusement je ne vais pas me souvenir du nom, mais on le mettra à côté du podcast. J'ai trouvé, pour un petit reproche, j'ai trouvé que c'était un peu trop dans la tradition du film inspiré de faits réels, où le fait réel dicte un petit peu trop sa structure au film, et on a l'impression de passer de scène qui s'est passée en scène qui s'est passée, et que ça manque parfois un peu de matériaux de fiction quoi, et d'émotion notamment. Le parcours du personnage de l'infiltré, moi je pense qu'il y avait moyen de faire des choses drôlement plus touchantes et impliquantes pour le téléspectateur que ça. Donc malgré ça, l'histoire est tellement forte et le destin est tellement tragique que ça arrive à être émouvant, et j'avoue que c'est aussi assez dérangeant parce que ça montre à quel point pour pouvoir s'investir là-dedans, pour pouvoir essayer de contrôler les choses dans une bonne intention qui est de promouvoir la paix ou enfin un espoir de paix en tout cas, il faut vraiment c'est même plus salir les mains, il faut vraiment se compromettre et donc voilà, enfin le à la fois l'infiltré se compromet et à la fin à la fin, enfin, on a l'impression que la France se compromet aussi de la manière dont ça se résout. C'est assez, voilà, c'est pas très gay. Ça cadre avec beaucoup de choses qu'on a vues ici. Et puis, hier, en fin d'après-midi, Karine et moi, on a vu tous les deux Xanadu. Trois épisodes de la série d'Arte qui sera diffusée à partir de la fin du mois d'avril, le samedi soir, à 22h30. On en a beaucoup parlé. Ça se passe dans le monde du porno. En fait, on est dans une. En fait, c'est Dallas, hein, sauf que la famille, au lieu d'avoir des puits de pétrole et des compagnies, elle a un empire du porno. Donc, tous les drames familiaux. Auquel on peut s'attendre, mais avec un traitement scénaristique assez inattendu. Je ne sais pas exactement ce que tu en as pensé, Karine.
J'ai trouvé ça super glauque. C'est pas parce que c'est dans le porno, hein, c'est pas du tout ça. C'est pour ceux qui auraient peut-être vu la série canadienne, c'est dans le même genre d'ambiance que Durham County. Donc c'est très psychologique, c'est très très noir. Je pense que si on est déprimé, c'est pas la série à regarder. Il y a des choses qui sont très incompréhensibles. La réalisation est nickel, hein, j'ai rien à dire. Je peux pas dire que l'histoire soit pas bien, je peux pas dire qu'elle est bien aussi. Parce qu'en fait, j'ai pas vraiment d'avis sur ce que j'ai vu. J'ai vu trois épisodes. Je disais en déconnant sur Twitter, je suis baignée dans un parfum qui sentait superment bon dans la salle. Je sais pas si c'était quelqu'un de la prod ou quelqu'un qui était derrière moi. Donc en partie, je serais restée pour ça. Mais je déconne un petit peu, mais c'est pas loin. C'est fascinant, comme Durham County peut l'être. Mais alors j'ai pas eu d'empathie pour les personnages et je pense que ça c'est un gros problème. Pour la même raison, je suis pas rentrée dans Dexter parce que j'avais pas d'empathie pour Dexter. Si je peux pas avoir une accroche, une attache avec le personnage, qu'il soit antipathique ou sympathique, ça peut pas marcher avec moi. Donc là c'est ça, il y a personne qu'on aime, peut-être la gamine québécoise, mais ça s'arrête là, quoi.
Voilà. Et malheureusement, c'est pas. Malheureusement, elle est pas très bonne actrice en fait. Et du coup, alors que ça pourrait être un des seuls personnages où effectivement on serait un peu dans l'empathie, comme elle dégage pas du tout d'émotion cette actrice, ça marche pas tant que ça, quoi. L'actrice qui joue la fille.
Marina.
Ouais, c'est ça. Et voilà. Bon, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire, donc on a vu trois épisodes, c'est presque trois heures. Je ne me suis pas du tout ennuyé, je n'ai pas du tout regardé ma montre, je n'avais pas envie de sortir de la salle. J'ai été fasciné, entre guillemets, par ce que j'ai vu, mais si je me mets dans la perspective d'un téléspectateur, si je choisis de revenir la semaine prochaine pour regarder l'épisode suivant, je ne sais pas si je le ferai, parce que...
Oui, c'est ça, on est fasciné par ce qu'on a vu, mais en même temps...
Mais on n'est pas attaché à ce qu'on a vu, parce qu'il n'y a pas justement.
Voilà, il n'y a pas d'empathie, et puis on n'est pas... Voilà, quand la série va diffuser sur Arte, je ne pense pas que j'y serai pour voir la suite. Et ça, c'est problématique. Je pense que si il y avait eu les 6 heures de la série, je les aurais regardées. Parce que j'étais un public attentif, et voilà. Mais le jour, ça va passer... Si on ne m'envoie pas les DVD pour me dire « Vas-y, fais une critique », je ne les regarderai pas, quoi.
Donc voilà, fascinant mais étrange, extrêmement déstructuré scénaristiquement. Ça joue sur la confusion entre le rêve et la réalité. Du coup, il y a des moments où on est comme au milieu de Mulholland Drive, si vous voulez. Donc on n'a aucune idée de si on comprend quelque chose de ce qui se passe ou pas. Il y a 2-3 mystères en place. Je ne sais pas si on est censé avoir une réponse à la fin ou pas. Donc je verrai. Et il y a même plusieurs trucs qui sont un peu too much, notamment à la fin du premier épisode, où je pense que si on fait un événement pareil, ça doit être le sujet de sa série, quoi. Je trouve ça assez compliqué de mettre ça juste comme incident.
Oui, c'est la ligne du grotesque, quoi.
C'est ça, voilà. Donc voilà, c'est un...
Mais on ne peut pas vous expliquer parce que ça va vous gâcher le truc. Ouais,
non,
ça serait vraiment un gros spoiler.
C'est clair.
Donc... au moins regarder le premier épisode pour voir à quel point ce cliff est out of nowhere, et voilà quoi, c'est juste pas possible, hein. Même quand c'est quelque chose d'expérimental comme ça, parce que ça ne peut être qu'une expérience, enfin ça ne peut être qu'un coup d'essai, c'est de la série indépendante dans le sens arrêt essai.
Vraiment, c'est voilà. Ça, c'est de la série d'auteur dans la conception la plus jusqu'au boutiste que le terme a pu avoir d'auteur.
Voilà, et vraiment c'est pas du tout le côté glamour du porno, c'est vraiment sordide.
C'est ça. Alors, c'est vraiment, effectivement, vraiment un traitement très dur et sans concession. Ce qui est à la fois intéressant, mais qui est aussi encore, enfin, qui rend encore la série à certains aspects encore plus compliqué, c'est que c'est pas dur dans le sens où c'est pas une dénonciation du porno. C'est-à-dire que, comme l'a expliqué Séverine Beauchesne dans l'interview que vous trouverez sur le Village, pour elle, en fait, le monde du porno est dur et violent et cruel et impitoyable avec les femmes, mais comme exactement tout le reste de la société. Donc il s'agit, voilà, il s'agit pas d'une condamnation du monde du porno, il s'agit de peut-être dire, il y a une hypocrisie par rapport au monde du porno, parce qu'en fait ce qu'on juge super négativement là-bas, ben il se passe la même chose partout ailleurs. Et du coup par exemple ça donne que il y a un couple, il y a le personnage de Boisselier, il y a sa femme et il y a le rapport du couple est malsain et violent. Comme peuvent être traités de manière malsaine et violente les rapports à l'intérieur des acteurs, quoi. Donc du coup, ça participe du fait qu'il n'y a pas de respiration. Et...
Oui, et puis, on a tous entendu les rumeurs sur le fait que ça soit très, très dur visuellement. Ça a été flouté. Toi, tu as eu confirmation qu'à la première projection presse, elle n'était pas. Donc dans le premier épisode où là on voit, moi j'ai vu qu'un flou, hein. Apparemment il y en a 6 ou 7 selon Sylvain.
Ouais, il y a plusieurs plans.
Voilà, il y a des flous sur des hommes en érection, mais je vous assure que les femmes c'est pas le cas. Les femmes on les voit en frontal, complètement, et c'est pas flouté. Donc il y a un traitement là aussi qui n'est pas, enfin, que je trouve pas normal. Puisque si tu floutes un homme, il n'y a pas de raison que tu ne floutes pas le même niveau au niveau de la femme.
Avec la subtilité qui, en fait, qui floute les érections, mais pas les sexes au repos. En fait.
Oui, effectivement. Ouais, mais...
On a des conversations.
Effectivement, ouais, mais...
Pour moi, qui n'ai pas vu Xanadu, cette conversation est hallucinante. Mais allons-y.
Eh ben, la série en elle-même est hallucinante, donc je pense que cette conversation était tout à fait représentative. Jetez un œil sur Arte, fin du mois d'avril... C'est tellement un objet sériel non identifié que ça vaut le coup pour sa culture d'avoir vu ce que c'est. Pour passer aux projections qu'on a vues aujourd'hui...
Manon, ça y est.
Eh ben non. On vient de voir, on expande.
Ah oui, tous les trois. Oui, effectivement. Bon, tu commences, Émilie, puisque c'est ta première projection.
Oui, première projection. Moi, je me suis éclatée. On était un peu, on s'est senti un peu seul à un moment avec Karine. On était les deux seuls à vraiment se marrer dans la salle.
Non, il y a quelques autres personnes, mais c'est vrai. Que
c'était pas énorme par rapport à la taille de la salle et par rapport au nombre de personnes.
Alors aussi, tu en
expansive. Alors, en fait, vous prenez une américaine avec toute sa liberté d'expression et son militantisme exacerbé qui débarque en Angleterre et qui a son petit copain là. Vous prenez les House of Commons, une des chambres du Parlement...
La Chambre des Communes.
Oui, la Chambre des Communes, une des chambres du Parlement donc anglais qui avec tout son côté vieux pépère, bien en place et qui profite bien du système et justement qui en profite au point de faire des dépenses un petit peu exubérantes. Et vous retrouvez tout ça avec, en parallèle, cette femme qui s'aperçoit à quel point les Anglais, en gros, ça les gêne pas de ne pas savoir ce qui se passe, de ne pas avoir accès à certaines informations, etc. Alors qu'elle, ça la révolte. Et c'est bon pépère anglais, donc elle remue au point où on crée le scandale. Et de l'autre côté, ce côté, mais non, il est hors de question qu'on révèle comment on dépense tout, parce que c'est pas bien ce qu'on fait. Mais donc sur cette problématique qui pourrait être traitée de façon très...
sérieuse.
Voilà, un peu... Voilà, le scandale, c'est le scandale, quoi. Et bien là, en une heure, on a un truc qui est construit avec une alternance de petites scènes, avec des petits clins d'œil dans chacune des scènes pour augmenter une dynamique, une rythmique plutôt comique, et qui en font un petit moment de plaisir Alors que, voilà, on a l'impression que c'est enfin, vraiment, c'est de la comédie.
Le sujet est quand même très, très grave. Ce sont des députés qui utilisent des notes de frais pour tout et rien.
Oui, des milliers de livres, enfin, c'est
oui,
pas...
Voilà,
il y en a un scolaire fait réel.
Oui, c'est factuel. C'est une série, enfin, c'est un oui. téléfilm factuel. Et des trucs comme réparer la tuyauterie sous un terrain de tennis dans la résidence principale. Une autre députée qui a déménagé trois fois, qui a acheté trois télés, des plasmas à chaque fois.
À 8000 livres.
Oui, voilà.
c'est 7000 livres pour acheter de nouveaux meubles juste avant voilà. de déménager.
On voit arriver le nouveau président de la Chambre des communes qui découvre les notes de frais, vraiment. Ça donne cette impression-là. Et qui décide de se refaire son intérieur avec une tapisserie qui coûte la peau des fesses. Donc le sujet est vraiment très très grave. Je pense que, en toute honnêteté, on doit avoir à peu près la même chose en France, mais c'est tellement abscon que de toute manière on ne pourrait pas avoir un tel scandale. Mais là, elle s'est servie d'une loi qui venait juste d'être passée. Ils ne se sont pas du tout attendus à ça et ils n'ont pas prévu d'exception pour les représentants, ce qu'ils ont essayé de faire en France et très récemment d'ailleurs. Donc voilà, et c'est très très drôle. Et c'est Brian Cox qui joue le rôle du président de la Chambre des communes. Il y a des grosses pointures. Il n'y a pas que lui, il y a Peter Capaldi.
Non, c'est pas Capaldi.
Il lui ressemble, mais.
Pareil, je me suis dit Capaldi aurait pu le faire, mais.
Celui qui s'occupe de rassembler toutes les notes de frais, il est absolument génial. C'est aussi un grand. Enfin, tous les députés, enfin, c'est.
C'est que des visages familiers que forcément vous avez vu, de ces hommes respectables, enfin, ces bons acteurs anglais bien british. Et forcément, la cohésion est là, quoi. C'est le réalisme est là. Et en même temps, oui, c'est un côté. Je pense que toujours, même les tenues de la petite américaine, moi, m'ont fait éclater de rire. Ces petites chaussures rouges qu'elle a tout le temps.
Et pourtant, elle est habillée typiquement comme une anglaise.
Oui, voilà. Alors là, oui, c'est un peu la contradiction. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que tous les petits détails font la rythmique. La musique, mais je pense que vrai, c'est la structure de narration.
En fait, pour donner une idée du ton très particulier du truc, il y a une introduction par sous-titre en fait au début qui dit ce film est inspiré de faits réels. Certaines dates ont été contractées. Et ensuite il y a un temps et puis mais bon de toute façon on n'aurait pas pu inventer tout ça. Hein.
Voilà,
we couldn't make it up.
Et c'est globalement c'est ça. Et on passe une heure.
On
la voit pas passer quoi. On se marre
avec la banane. Ouais. Et pourtant le sujet est tellement sérieux, c'est ça le pire.
Mais avec ce traitement de dire c'est tellement invraisemblable.
Oui.
C'est tellement fou que ça peut être qu'un sujet de sitcom et du coup voilà on part comme ça.
Quand on est sorti, on était juste devant un groupe de jeunes Français qui n'ont pas du tout aimé le ton. Il y en a une qui a même dit qu'il jouait mal. La fille, elle sait même pas qui est Brian Cox. très sincèrement, elle a le droit de penser ce qu'elle veut. Je dis pas qu'elle a tort, mais tu dis pas que un type comme Brian Cox joue pas. Enfin, c'est pas joué, c'est pas possible. Même le mari fiancé, il est nickel dans son côté débonnaire. Tout me convient, je m'excuse de tout. Enfin, c'était parfait, quoi.
Sa crise, à un moment, quand elle tape sa crise, parce qu'elle d'un coup, elle est prise d'une angoisse, quand vraiment ça commence à monter en épingle, toute cette histoire, elle est prise d'une angoisse par rapport à ça, mais qu'est-ce que j'ai fait ? De toute façon, je n'obtiendrai rien. Et il y a juste une réplique qui dit en gros, ça y est, maintenant je sais ce que c'est, je me sens britannique d'un coup. Et c'est énorme.
Donc voilà, c'était un pur moment de plaisir.
Ouais, ouais.
Il y a peu de chances que vous voyez ça en France.
Oui, il est impossible qu'un sujet aussi grave soit traité de cette façon aussi satirique. C'est pas possible. Sauf peut-être au théâtre. Mmh. Et encore. Voilà.
Bon, et puis donc voilà pour le bilan des projections d'hier et d'aujourd'hui. On va venir au gros morceau. Ça faisait partie des choses qu'on attendait dans ce FIPA. Il y avait une grosse conférence de 2h30 programmée cet après-midi avec un focus sur la fiction anglaise. Une première partie un peu généraliste où l'ambition était de brosser un peu un portrait de la fiction télé anglaise, l'ambition. Et une deuxième partie qui, en fait, prenait l'exemple pratique de Death and Paradise, qui est la première coproduction depuis des années entre BBC et France Télévisions, qui est en écriture depuis longtemps, qui est en développement commun chez France Télé et BBC depuis un an, en fait. Et le tournage est prévu à partir de la fin du mois d'avril. Et c'est 8 épisodes de 60 minutes.
Et donc, je vais ouvrir parce que...
Vas-y.
J'étais peut-être encore plus énervée que toi.
Je suis quasiment sûre. Vu que j'étais à côté de toi, je pense que j'étais la plus énervée.
Non, mais il était encore... Je crois, pour que je vois qu'il était à ce point excédé, c'est qu'il devait être encore plus excédé de moi, finalement. Mais alors, donc, la table ronde était... était modéré par un type que moi je ne connais pas, qui s'appelle Philippe Pilar, qui en fait a écrit des livres sur la fiction.
En fait, c'est un historien du cinéma.
Voilà. Donc, tout ce qu'il connaît des Anglais s'est arrêté quand même aux années 80.
Et ça concerne le cinéma, essentiellement. Voilà. Il connaît un peu l'industrie de la télévision, voilà. mais il n'a rien vu à la télé depuis.
Oui. Et donc avec une façon de parler, moi j'ai beaucoup aimé, il a dit on va faire quelque chose de didactique avec des gens qui vont parler, qui vont poser des questions, mais en fait c'est pas ce qu'il voulait, lui il voulait faire sa leçon.
Il faisait 10 minutes de je donne mon avis, je pose une petite question et peut-être que l'invité a le temps de parler.
Et puis à un moment il a dit quelque chose, alors... Voilà. Le truc, c'est qu'on était entouré de gens de Left Pen Pictures qui ont écrit, qui ont produit Wallander avec de Kenneth Branagh, qui ont produit Zen. Donc, ce sont des policiers, ce sont des séries pour la télévision. Il y avait
le gars le producteur de Left Pen Pictures, son ancien job, c'était d'être responsable des commissions, des commandes à Channel 4, celui qui a commandé Skins à Brian Isley.
Donc il y avait Simon Winston qui est ce qu'on appelle un writing producer qui travaillait sur Doctor Who avant de travailler avec Left Bank, qui travaille sur Death in Paradise
et qui a travaillé sur EastEnders aussi.
Voilà. Et puis il y a le créateur de Death in Paradise qui était là aussi.
Et un autre scénariste mais plus vieux, habituel
plutôt de la mini-série et du
même voilà, de l'unitaire, même pas
oui,
de la mini-série.
Parce que Blood and Oil, il fait c'est un deux parties.
Voilà, et donc il a fait Blood and
Oil cette année.
C'est intéressant de mentionner sa présence parce que même lui, qui donc est plutôt dans une culture de l'unitaire et là-dedans, il a été outré par le mépris en fait.
Voilà, un moment.
On va juste parler du climax parce qu'il faut savoir que c'est quand même monté tout le long cette petite histoire et que les questions et les réflexions qu'a pu faire le modérateur ont été de pire en pire.
Oui,
et là, je pense que Karine est arrivée au vif du sujet.
Et puis à un moment, il pose une question sur les séries en demandant si ça ne portait pas dommage à la création de la fiction. Et là...
Il l'a posé comme étant la question dérangeante.
Voilà. Et là, d'un coup, ils se sont tous réveillés. Je pense que...
Comment il s'appelait, le mec de Left Bank Pictures?
Francis Hopkinson. Je pense que s'il avait été à côté de lui, il avait peut-être son poing en pleine gueule. Mais avoir un modérateur... porter autant atteinte au travail de gens qu'il a autour de lui, avec qui en plus il parlait avant le début de la table ronde, parce que nous on est arrivés un quart d'heure avant, ils étaient déjà tous là, et donc ils discutaient, et ne pas savoir que c'est des mecs qui font de la série, pas du film, et que ça ne les intéresse pas, et qui sont super fiers de leur patrimoine, de la télévision,
et du niveau qualitatif, voilà, des séries britanniques, quoi.
Et vraiment, moi j'étais estomaquée et puis outrée. Parce qu'en fait, j'ai 50 ans de moins que lui pratiquement, et j'en sais 10 fois plus sur même le cinéma anglais. Peut-être que j'aurais pas pu parler des Euro Pudding comme il l'a fait, mais d'accord, mais la caverne de la Rose d'Or, ça fait longtemps qu'on n'en fait plus. Voilà. C'est plus possible de parler de fiction britannique en parlant de coproduction de mauvais étages. Et c'était monstrueux.
Il y avait donc le producteur de Left Bank Pictures qui bouait pendant une demi-heure. Il se cachait la tête dans les mains tellement il y avait la nervosité qui montait, qui était désespéré. Et donc à un moment donné, quand le modérateur a posé sa question sur en gros les séries étaient en train de ruiner la télévision anglaise, quoi, il a fini par dire non mais je voudrais vous dire quelque chose parce que là avec votre obsession du cinéma vous déformez les choses. On produit en Angleterre des mini-séries, des séries qui sont brillantes, d'un très haut niveau. Il a cité Wallander évidemment, il a cité Sherlock,
il a cité Downton Abbey,
qui sont des, enfin je sais pas si on a allumé une télé ces dernières années qu'on les a vues, on doit être au courant que c'est des grandes œuvres et que ça a juste rien à envier. Que ça vaut cet unitaire français réuni empilé les uns sur les autres, quoi.
Et puis il faut savoir aussi qu'il y avait Ben Donald de BBC Worldwide qui a carrément participé à ça parce qu'il était outré parce que c'était pas possible d'entendre une bêtise pareille.
En fait, il y a eu une deuxième grosse bourde qu'il a fait, c'est qu'il a quand même attaqué, quand tu parlais d'Euro Pudding, il est parti quand on a parlé des coproductions. Il est parti à dire que les coproductions de toute façon européennes actuellement étaient encore à l'état et allaient encore aboutir au niveau télévision à de l'Euro Pudding. Donc, comme disait Karine, la référence que moi j'ai là-dessus, c'est les cavernes de la Rose d'Or, où chacun tourne dans sa langue, où c'était juste un énorme bordel et où chacun essaie de dire bon, bah voilà, il faut placer mon gâteau régional, etc. dedans. Et sachant que la deuxième partie de la conférence était quand même sur une coproduction. Avec donc en présence l'équipe de coprod, on va dire les différents intervenants, aussi bien artistiques que monsieur BBC Worldwide qui était là et France Télé qui était là. Il leur sort quand même, vous êtes en train de faire de l'Euro Pudding. Donc là, Ben s'est en effet un petit peu réveillé d'un coup en disant mais je peux plus laisser faire ça, je peux plus laisser dire ça, est intervenu au milieu du truc pour expliquer qu'il fallait arrêter, que l'Euro Pudding, ça faisait 15 ans que ça n'existait plus, quoi.
Et quand on réfléchit au FIPA, le problème du FIPA, c'est toujours cette impression que d'avoir ce regard cinématographique sur la fiction télévisuelle. Bon, moi, j'ai pas de problème avec ça en soi. C'est élitiste, mais après tout, pourquoi pas ? Je l'accepte. Mais quand on invite un modérateur, on doit prendre quelqu'un qui respecte les gens avec qui connaît son sujet. Et ça, c'est franchement impardonnable. Et je me fiche que le type, il est peut-être ami avec quelqu'un, qu'il a peut-être une réputation pour le cinéma, mais il n'avait pas sa place là. Autant il aurait mieux fallu prendre un journaliste qui est passionné par les séries que ça.
Et là, on touche donc à un problème qu'on soulève en gros depuis le début du FIPA. Où on a dit plusieurs fois, et c'est peut-être pas forcément agréable, mais qu'il y a quand même un problème ici dans ce festival avec la vision de la télévision et avec le traitement des séries. Moi je vais être honnête, je pense qu'il faut que les gens du FIPA fassent sur eux un gros travail de remise en question et décider de quelles orientations ils veulent pour l'avenir. En gros, ils ont deux possibilités qui s'offrent à eux. La première, c'est de dire que les séries, en fait, ils aiment pas ça et qu'ils veulent pas en voir. Donc, ils choisissent de faire une sélection avec que des unitaires. C'est très bien, c'est parfaitement respectable. Moi, ça m'intéressera moins parce que je pense que la télévision est faite pour diffuser de la série, que c'est un média de rendez-vous et que singer une forme d'art qui est autre, qui est le cinéma, ben, on fait du mauvais cinéma et de la pas très bonne télévision. C'est ma conviction à moi, visiblement ils en ont une autre, mais ils ont tout à fait le droit de défendre la leur. Dans ce cas-là, ils peuvent faire ce choix-là. Par contre, si jamais ils veulent continuer à programmer des séries, ce qui, je vous l'accorde, semble un peu obligé vu l'importance qu'ont les séries culturellement actuellement, bon, s'ils veulent continuer dans les prochaines années à avoir une programmation de séries, il faut absolument qu'ils intègrent à l'équipe d'organisation du festival des gens qui aient un minimum de connaissances en termes de séries. Clairement, il n'y a personne dans ce festival qui n'y connaît rien, quoi que ce soit, en séries. Ils sont tous à la limite de l'impolitesse et du mépris. Encore une fois, je reviens sur la cérémonie d'ouverture, une projection de Boardwalk Empire. On n'a pas cité une seule fois le nom du créateur showrunner Terrence Winter. Imaginez, vous allez au Festival de Cannes, là le président du Festival de Cannes présente un film et vous dit ce film dont le directeur de la photographie est Gustave Tartonfion, je vous le propose, et il s'en va et il n'a pas cité le nom du réalisateur. Imaginez ce qui se passe sur la croisette. Ce qui se passe par rapport aux séries au FIPA, c'est exactement la même chose. C'est ne pas comprendre comment sont faites les séries et qui les fait et qui sont leur âme créative. Et si on n'est pas capable de comprendre ça, on fait le choix de ne pas en parler, et sinon on est vraiment outrageant par rapport à ces créatifs.
Et c'était très intéressant parce que c'est exactement le
contenu du discours des Anglais. Ouais.
Voilà, il y avait Guy Hibbert, donc celui qui fait de la mini-série de l'Unitaire, qui disait ce qui est génial, c'est qu'en Angleterre, la télévision.
Centrée, ouais, sur le scénariste.
C'est le scénariste dont on voit le nom en premier, ce qui est exactement la même chose aux États-Unis. On voit d'abord le nom du scénariste, qui a créé, c'est pas le réalisateur qui fait sa Bible, il fait ce qu'il veut, Scorsese ou celui de Pushing Daisies. Enfin, peu importe. Peu importe. Donc, ils font leur Bible visuelle, mais en tout cas, la pensée créative derrière, ce sont les scénaristes. Et donc, Guy Hibbert, il disait, dès qu'on sort de l'Angleterre et dès qu'on arrive sur d'autres supports, ce n'est plus moi dont le nom est affiché, mais c'est le nom du réalisateur. Et il y a, je ne sais plus lequel, c'est Francis Hopkinson ou peut-être Robert Thorogood, donc le créateur, qui disait, on a beau avoir un réalisateur, s'il n'y a pas le scénariste, il n'y a rien derrière. Et c'est exactement ça. La table ronde était fantastique, mais
il fallait juste couper toutes les interventions du modérateur qui malheureusement occupait quand même une heure de la table ronde. C'est un peu beaucoup.
Mais, voilà. Mais c'est vrai que globalement, c'est ce que disait Karine. Globalement, si on sort toute cette partie polémique sur le fait que lui ne connaissait pas son sujet et qu'il a lancé des questions absolument aberrantes, si on ressort ce qui a été dit dans cette conférence, on reprend ce que nous, parce qu'on connaît la fiction justement britannique et ce type de choses, nous savons. Par contre, ce qui peut ne pas paraître évident dans une culture télévisuelle française, c'est-à-dire que dans ce type de production, le scénariste est en effet au cœur de la production, qu'on lui laisse une grande marge créative, que quand il a pris un choix, on n'essaye pas de lui dire qu'on veut formater différemment, etc. Enfin, beaucoup moins, en tout cas.
Et c'est ce que, en fait, sous-entendaient les filles de France Télé.
De France Télé, que clairement, la copro fonctionnait pour ça.
Voilà. Non, mais c'est surtout qu'elle sous-entendait fortement qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient rien à dire et que c'était Robert Thorogood, le créateur, qui décidait de ce qu'il voulait, et BBC derrière.
En fait, elles évoquaient le processus le processus d'écriture, en fait, et elles expliquaient qu'à France Télé, elles se retrouvent confrontées à un auteur anglais, et que là, si elles appliquent la tradition française, « Ah, monsieur, c'est très bien votre synopsis, je vais maintenant vous commander un séquencier de 2 pages, qui après validation me permettra de vous commander un séquencier détaillé de 13 pages, qui après validation me permettra de vous commander un... » Et que le scénariste de la série, non, vous êtes gentil, donc vous me validez mon synopsis, et puis moi je reviens avec un scénario complet, et il n'y a pas d'étape entre les deux, c'est comme ça.
Et il faut aussi savoir que pour Death in Paradise, c'est 30% pour FTV, 70% pour la BBC.
Ce qui est standard en coprod de duo, ouais.
Oui, c'est pas ça ce que je voulais dire, c'est qu'à partir de ce moment-là,
Quand tu ne
portes que sur 30%, a priori, c'est que de toute manière, ton champ d'action n'est pas si grand que ça. Et que c'est à la BBC, et s'ils veulent toucher à quoi que ce soit de fondamental dans le scénario, va falloir bien le justifier. Je pense qu'ils sont pas en état, et je pense qu'à l'heure actuelle ils ont. Mais la fille de France TV, elle était très humble quand même, parce qu'elle a quand même dit on est en train d'apprendre énormément de choses. Donc ils sont en train de se rendre compte qu'on est en train de leur donner un savoir-faire. Donc c'est fantastique, parce qu'on se dit peut-être que d'ici 1 ou 2 ans, ils vont arriver à le mettre en place pour des fictions françaises. Je dis
oui, c'est déjà naïf. Sur les coprod, enfin ça c'est le résultat en effet des leçons qui se sont prises à force de faire de l'Europudding, comme il disait il y a 15 ans. C'est-à-dire que de se dire que voilà, je mets des sous dans l'histoire, donc oui, mais il faut pas qu'il y en ait un qui domine les autres, il faut qu'on se retrouve à peu près à des parties équivalentes sur le budget, et puis à partir du moment où je mets des sous, je veux pouvoir aussi de décision. Ça marche pas, c'est ce qu'on a toujours vu, parce que chacun place ce qu'il veut, etc. À partir du moment où une coprod est intelligemment faite avec un acteur dominant, et que à ce moment-là, l'acteur dominant est le décideur final, et que en effet, il y a, comme là, il le précisait, là, le tournage va se faire en anglais. Globalement, il y aura un doublage par les comédiens français des rôles de leur propre rôle plus un doublage des comédiens anglais, mais le tournage est fait en anglais. C'est fini l'époque où il y en a un qui parle en italien, un qui parle en français, un qui parle en allemand.
Et pourtant, c'est pas si loin que ça, puisque non. Guerre et Paix...
Guerre et Paix était déjà comme ça.
Guerre et Paix était... Un parlait dans sa langue, l'autre parlait dans son...
Oui, 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 c'est ça, c'est Guerre et Paix était encore comme ça, mais...
C'était 2002-2003, peut-être un peu plus récent que ça, je me souviens plus. Donc, c'est pas si loin que ça que France TV n'avait toujours pas
accepté ça.
Et il y avait quelque chose qui était intéressant sur l'écriture, parce que donc... quand le projet arrivait, que France TV s'est greffé dessus, ils ont décidé qu'ils allaient tourner ça parce que la série se passe dans les Antilles, et au départ ça se passait plus ou moins dans les Antilles anglaises, ils ont décidé que ça se passait dans les Antilles françaises, ce qui justifie la coproduction, et ils ont décidé de mettre un co-scénariste français en fait, avec le scénariste principal anglais, parce qu'il connaît pas du tout la France. Pour l'instant, le tournage est à la fin du mois d'avril, il a toujours pas mis les pieds en Guadeloupe, il le fera pour la première fois lundi prochain. Et les gens de France CD, avec une candeur qui était un peu touchante, même si elle est quelque part un peu désespérante aussi, disaient qu'ils voulaient engager un assez jeune scénariste pour être le co-scénariste, et que c'était dingue. Il y avait plein de gens de 30-40 ans, d'auteurs français, ils ont été biberonnés aux séries, et instinctivement, ils comprennent tous les codes de la narration, c'est facile pour eux. Et on se faisait la remarque, et aussi en regardant les âges des intervenants, dont certains, voilà, le producteur de l'EF Bank Picture, qui a donc une société, qui a pignon sur rue, qui
fait des... Ans.
Voilà, et il a à peine... Enfin, voilà, les...
Enfin, globalement, hein, tous les Anglais, à part l'auteur d'Unitaire, avaient moins de 40 ans.
Voilà, et donc cette génération-là, dont la conseillère de France Télévisions parlait, eh ben, en Angleterre, c'est la génération qui a le pouvoir créatif, qui a les commandes, qui a les idées, et qui a l'initiative des projets, et chez nous, ce sont les petits jeunes qui débutent, et qu'on regarde avec un regard attendri et vaguement condescendant. La situation respective de la fiction télévisée des deux pays se retrouve, ma foi, assez bien résumée à ce simple constat.
Et c'était l'anecdote de Robert Thorogood qui racontait comment ça s'était passé quand il a présenté le projet, et les différentes personnes qu'il a rencontrées, jusqu'à Ben Stevenson, qui est Head of Drama de la BBC.
Et le méga grand chef de la fiction.
Voilà, si vous n'avez pas encore lu son discours sur le site du Village, pour dire ce qu'il voulait faire du drama sur la BBC, allez le lire, parce que ça donne un enthousiasme incroyable. Et donc, il racontait comment ça s'était passé, parce que c'est son premier crédit en tout et pour tout, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Il n'a jamais écrit en tant que tel. Une fois que Stevenson lui a donné enfin son accord pour le projet, avant même que France TV soit coprone, Stevenson lui fait: mais au fait, qu'est-ce que tu as fait? C'est-à-dire que
il avait passé toutes les étapes.
Voilà, à aucun moment, aucune personne ne s'est posé la question de savoir s'il avait fait quelque chose avant, parce que ce n'était pas important. Parce
qu'il avait un bon projet et un bon script de pilote, voilà, et c'était suffisant.
Voilà, ça veut tout dire sur la façon dont la fiction britannique travaille en ce moment.
Mais même globalement, sur l'approche française, puisque par rapport à cette question, justement, en fait, il avait déjà expliqué ça un moment dans la conférence, et il y a une journaliste, a priori française, donc, qui a posé la même question en fin de conférence, parce qu'elle avait raté le début. Il commence à expliquer ce processus et elle le coupe hyper rapidement et hyper de façon très impolie pour lui dire: non, mais c'était pas ça ma question, moi je veux savoir ce que vous avez fait. Et voilà, ça résume la situation. Cet auteur est en train de vous expliquer il est arrivé jusque-là et à quel point justement ça n'apportait pas et qu'il avait rien fait, et elle le débite directement pour lui dire: non, mais moi je m'en fous.
Ce qui est intéressant, c'est que la phrase d'après, il le disait. Donc elle avait. Enfin, nous
elle
on savait.
Deux secondes de plus,
voilà. Nous on savait que ça allait arriver parce qu'il nous l'avait déjà dit. Mais la façon impolie, arrogante.
Ah oui, mais globalement, c'est flagrant du système français, quoi. C'est.
Mais alors, j'ai discuté avec une jeune journaliste de chez Libé. Qui n'avait pas du tout la même appréhension, cette approche, et elle était comme nous, elle était offusquée, choquée, c'était un sentiment général, et puis
c'est, voilà. Oui, ça a été vraiment partagé par toute la pièce qui assistait à la conférence. on voyait la nervosité, les soupirs et tous les mouvements de mécontentement par rapport à ce qui se passait. C'était largement partagé par les invités du panel, encore une fois, qui se recroquevillaient, qui s'échangeaient des petits regards.
Je me souviens, oui, les Anglais, mais même devant nous, on était juste derrière les gens de France Télé et BBC Worldwide.
Elles ne se sont pas retournées une seule fois pour avoir l'air offusquées de ce qu'on était en train de dire.
C'est ça.
Alors, j'étais d'une méchanceté.
Mais Karine poussait des cris, je vous assure, vous les entendrez de toute façon sur le montage vidéo de la conf, parce qu'elle était près de la caméra, elle poussait des cris.
Pour un peu conclure, parce que sinon on va faire trop longtemps, mais en fait il y a quelque chose que nous on essaye, enfin ce qui est derrière le projet du village, ce qu'on veut dire, c'est que la télévision c'est un média à part entière qui doit être pris pour ce qu'il est. Au cinéma, en fait, le réalisateur a la primauté parce que c'est la meilleure façon de faire un bon film. Parce que le réalisateur, il a beaucoup de temps de production, il peut s'investir, il peut réécrire le script, il a énormément de temps de tournage, il tourne une minute ou deux minutes utiles par jour. Ça veut dire qu'il peut répéter, improviser, modifier les scènes et il peut écrire son film au tournage, au montage, il a le temps pour ça. Le processus de la télévision est beaucoup plus court parce que les budgets sont beaucoup plus réduits. Ça ne laisse pas le temps à un réalisateur d'écrire au moment du tournage ou au moment du montage. L'écriture, elle doit se faire avant. La télévision est un média d'écriture. C'est un élément fondamental qui est élémentaire. N'importe qui s'intéressant un peu à la télévision est obligé d'en venir à cette conclusion qui est limpide. Malheureusement, le fait que si peu de gens en France et que cette conférence ait pu s'organiser dans ces conditions avec un tel mépris dégoulinant pour la télévision et son média et les gens qui la font, prouve que personne en France, très peu de gens en France, parmi les institutions, sont capables de s'intéresser suffisamment et avoir suffisamment de respect et de curiosité intellectuelle envers le média télévision pour en arriver à cette conclusion élémentaire qu'un enfant de 10 ans fait en regardant un peu comment ça marche. Donc c'est assez inquiétant à l'heure où la France a envie regarde avec envie les séries étrangères de qualité qui déboulent chez nous et se lamente de voir qu'aujourd'hui les Français regardent en majorité de la fiction américaine alors que dans tous les pays d'Europe les Européens regardent en majorité fiction produite par leur propre pays et ensuite assez loin derrière en général la fiction américaine. Écoutez, les intervenants de qualité qu'il y avait dans cette conférence, ils avaient toutes les clés pour nous expliquer comment il fallait s'y prendre. Voilà. La question maintenant, c'est est-ce que les gens qui ont le pouvoir ont envie de les entendre ou pas.
Et puis, une envie de transmettre leur savoir-faire, quelque chose que l'on voit aussi aux États-Unis, quand on regarde un peu les panels, même au Comic-Con, des auteurs, que ça soit Whedon ou Abrams, la façon dont ils parlent et qui donnent envie à des jeunes scénaristes de venir travailler, même des réalisateurs, ça donnait vraiment envie de discuter avec eux après, c'est valorisant pour eux, et je pense que le fait qu'on soit allé les voir après, ça leur donnait encore plus envie, peu importe après qu'on aime ce qu'ils font ou ce qu'ils font pas, mais en tout cas c'est un plaisir d'avoir cette ouverture, c'est surtout ça, voilà.
Et juste, moi je voudrais juste ajouter, parce que globalement donc les Anglais non seulement ont cette conscience de ce qu'est la télé et que quand on fait de la télé on fait de la télé, et c'est pas du tout péjoratif, ils ont cette conscience que chaque média a ses propres caractéristiques et qu'il faut savoir le gérer. Et à côté de ça, les Anglais ont aussi un autre point qui est capital aussi, qui est aussi une grosse déficience en France, c'est-à-dire qu'on considère aussi en France que les seules personnes qui sont capables de savoir si un projet a du potentiel, c'est un décideur qui ne regarde peut-être même pas ce type de fiction, etc. Alors que les auteurs anglais, les trois quarts du temps, quand vous discutez avec eux, etc., ils vont très vite vous dire que tel pitch ou tel pitch, ça a du potentiel ou ça n'en a pas. Parce qu'ils ont aussi, malgré tout, en plus de cette notion de télé, ils ont un minimum de compréhension de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, de ce qui peut plaire, de ce qui ne se fait pas, d'un point de vue business, en fait. Quand l'auteur de Death in Paradise, qui n'a jamais rien écrit avant, t'explique gentiment que Death in Paradise, bien sûr que c'était un concept qui pouvait marcher, qui avait du gros potentiel. On n'a pas résumé du tout, on n'a pas du tout pitché la série, mais en gros, c'est un flic anglais qui supporte pas le soleil, qui supporte pas la mer, qui n'aime pas, qui ne veut pas, qui ne sait pas nager, qui a peur de l'eau, qui aime pas voyager, qui aime pas l'avion, qui aime pas. Donc le grincheux service qu'on envoie enquêter sur une affaire de meurtre à l'autre bout du monde, dans les Caraïbes, donc avec tout ce qu'il n'aime pas. Mais bien sûr, forcément, c'est la base. Vous mettez un personnage et vous le confrontez à une problématique, vous avez une histoire en plus autour, c'est la base, forcément.
Et ils ont raison en disant que le concept est limpide, super puissant, on l'explique en deux phrases, ça s'arrête là. Et si on n'arrive pas à expliquer une série comme ça, ou une fiction, peu importe laquelle c'est, je suis sûre que Terrence Winter est capable d'expliquer Boardwalk Empire de cette façon-là, ou The Wire aussi, de façon limpide, à faire comprendre aux décideurs. Oui. Bon, effectivement, les décideurs aux États-Unis et en Angleterre sont aussi des créatifs, d'une certaine manière. Donc c'est plus facile que quand on a des technocrates, comme en France. Voilà.
Et surtout, ils connaissent le média en question.
Ouais.
Allez, sur ces bonnes paroles, qui, je pense, nous auront fait partager notre légère irritation, je vous dis bonjour chez vous, et puis continuez de nous suivre. Le FIPA continue jusqu'à dimanche. À très vite.